Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'information. Les principaux titres, aujourd'hui, le Premier ministre letton à Prague pour discuter de l'Union européenne et de l'OTAN avec son homologue tchèque, le nouveau système d'immatriculation des voitures à nouveau en panne, et la présidence du ministère public à Prague, Peter Nečas, soutient la volonté de son ministre de la Justice d'organiser une compétition. Le Premier ministre letton, Valdis Dombrovskis, est à Prague ce mercredi pour discuter de l'Union européenne et de l'OTAN avec son homologue tchèque Peter Nečas. Un des thèmes de leur rencontre doit être la crise économique et financière de l'Union européenne et dans le monde. Les deux chefs de gouvernement devraient également aborder le sujet de la reconduite jusqu'en 2018 de la protection de l'espace aérien au-dessus des pays baltes, assurée entre autres par des avions de chasse tchèques dans le cadre d'une opération de l'OTAN. Le nouveau système d'immatriculation des voitures est à nouveau en panne ce mercredi. Ce dysfonctionnement au niveau national a empêché toute connexion aux bases de données de la police et des véhicules, prolongeant la crise de ce nouveau système lancé le 9 juillet. Le chef de gouvernement, Peter Nečas, a donné à Pavel Dobesh jusqu'à vendredi pour que les choses changent, l'appelant à démissionner s'il devait faillir à la tâche. Le Premier ministre Peter Nečas, du parti ODS, a déclaré ce mercredi que la tenue d'une compétition pour accéder au poste de président du ministère public à Prague serait une bonne chose pour la justice tchèque. Il approuve ainsi la décision de son ministre de la Justice, Pavel Blažek, lequel a refusé de nommer directement à ce poste Lenka Bradáčová, réputée obstinée dans la lutte contre la corruption. Peter Nečas a estimé que le ministre de la Justice a eu raison de ne pas céder aux pressions médiatiques dont il aurait été l'objet. Les spéculations vont en effet bon train sur le fait que l'ancien ministre de la Justice, Jiří Podpíšil, aurait été limogé du fait de sa volonté de nommer Lenka Bradáčová au ministère public pragois. Le gouvernement a approuvé une proposition qui fixe de nouvelles règles en matière de nomination au sein des entreprises publiques. Cette modification, instituée par le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, aurait pour objectif d'accroître la transparence dans les relations entre entreprises et politiques. Les candidats devront désormais apporter la preuve de leurs compétences et publier régulièrement un compte-rendu de leur activité. L'opposition social-démocrate soutient également ce texte et espère que la question des rémunérations y sera incluse. Jan Kubice, le ministère de l'Intérieur, a présenté ce mercredi un projet visant à réorganiser la police avec de possibles baisses d'effectifs en vue d'économiser un demi-milliard de couronnes, soit environ 200 millions d'euros, sur les salaires des forces de l'ordre pour l'année prochaine. Selon lui, le nombre de policiers par habitant en République tchèque est égal ou supérieur à celui des pays environnants, ce qui justifierait les mesures envisagées. Le Premier ministre Peter Nečas, à nouveau, a annoncé que la République tchèque pourrait ne pas être en situation de louer à nouveau les chasseurs suédois Jas-39 Gripen. Dans l'état actuel des choses, l'offre des Suédois n'est pas satisfaisante dans un contexte où le gouvernement tchèque est engagé dans un processus de restriction budgétaire. De plus, il a rappelé l'ombre de la corruption qui planait sur ses locations, mais aussi la décision de Prague de négocier uniquement avec la Suède. Selon le Premier ministre, le contrat pourrait prendre fin si la position des autorités suédoises n'évolue pas et la République tchèque pourrait lancer un nouvel appel d'offres. Lors de son second mandat à la présidence de la République, Václav Klaus a plus souvent réalisé de voyages officiels dans les pays extra-européens ou des Balkans. Depuis 2008, le président, connu pour son euroscepticisme, a seulement effectué 3 rencontres d'État au sein de l'Union européenne, en Irlande, en Slovaquie et en Lettonie. Un peu de culture à présent, pour la 4e année consécutive, la ville historique de Znojmo, en Moravie du Sud, accueille le festival de musique, de théâtre et d'art de rue Schrammelfest. L'ambition est d'accueillir sur la place Mikulash une programmation de qualité mettant en avant une culture alternative de rue. S'y produira notamment le groupe Floex du compositeur et artiste graphique tchèque Tomáš Dvořák. Du sport enfin, le meneur de jeu de l'équipe de République tchèque, Tomáš Rosický d'Arsenal, a récemment subi une nouvelle opération du tendon d'Achille et restera indisponible entre 6 et 8 semaines, rapporte le quotidien Pragois Sport. Il y avait une inflammation, il fallait l'éliminer, a affirmé l'agent du joueur, Pavel Paska, cité par ce journal. Tomáš a déjà commencé la rééducation, a-t-il ajouté. Rosický, 31 ans, manquera ainsi le démarrage à la mi-août de la nouvelle saison du championnat d'Angleterre et très probablement aussi le début de la campagne qualificative des Tchèques en vue du Mondial 2014, le 8 septembre, au Danemark. On finit avec la météo. Mercredi, jour de fête des Yacoub, le temps en République tchèque sera variable avec des averses et des orages par endroits. Les températures maximales se situeront entre 25 et 29 degrés. La suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Pierre Maignan pour son bulletin d'information. La police anticorruption veut empêcher les fuites dans la presse dans les dossiers sensibles. Elle entend donc mettre en place des mesures limitant le nombre de personnes ayant accès aux dossiers. Quels sont les espoirs tchèques au JO de Londres à quelques jours à peine de leur coup d'envoi, tour d'horizon des possibilités de médailles. Bonne écoute de ce programme. La police de lutte contre la corruption va limiter le nombre de ses membres qui pourront avoir accès aux dossiers relatifs aux enquêtes menées sur des hommes politiques, de même que les membres du comité des immunités du Parlement. Objectif, empêcher les fuites dans les médias. Ces derniers temps, deux affaires sensibles font la une de la presse. Dans les deux cas, des fuites de documents de l'enquête ont eu lieu. Ainsi, dans le cas du député social-démocrate David Rath, poursuivi pour corruption, et dans celui de l'ancienne ministre de la Défense, Vlasta Parkanova, sous le coup de soupçons sont similaires dans le cadre de l'achat d'avions militaires CASA. En ce qui concerne notamment David Rath, pour lesquels les députés ont voté le retrait de son immunité afin de laisser libre cours à l'enquête, des retranscriptions d'écoutes téléphoniques ont été publiées dans la presse. C'est ce type de fuite que la police anticorruption souhaiterait éviter à l'avenir. Le chef de cette unité, Tomáš Martínez, a présenté 6 propositions au social-démocrate Bohuslav Sobotka, qui est à la tête du comité des immunités du Parlement. 5 de ces propositions concernent justement ce comité sollicité lors des cas de retrait de l'immunité d'un député.
Une de ces mesures concrètes concerne l'accès aux copies des documents. À l'avenir, ceux-ci ne seront plus photocopiés, ils ne resteront à la disposition que d'un seul membre du comité des immunités ou du secrétaire du comité. Quant aux autres propositions, M. Sobotka souhaite en discuter avec le comité. Dès que tous ses membres seront tombés d'accord avec mes propositions, ces mesures pourront être mises en place.
S'il faudra attendre donc encore un temps pour qu'elle soit mise en œuvre, Bohuslav Sobotka, de son côté, se dit tout à fait favorable aux mesures proposées par le chef de la police anticorruption.
Le comité des immunités du Parlement va discuter des propositions de M. Martínez au début du mois de septembre et prendra une décision. J'informerai la police de cette décision afin que nous puissions aussitôt fixer les règles relatives à la circulation des documents.
Le chef de la police anticorruption se défend de vouloir limiter la transparence de la procédure de demande de retrait d'immunité, mais souhaite avant tout éviter des fuites qui compliquent le travail des enquêteurs. D'ailleurs, la police elle-même devrait être concernée et l'accès au dossier sera également limité au sein même de l'unité chargée de l'affaire en cours. Tomáš Martínez.
Avec Bohuslav Sobotka, nous avons discuté du fait que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas que les enquêteurs et les membres du comité qui rentrent en contact avec les dossiers. De nombreuses autres personnes ont accès aux dossiers lorsqu'il y a inculpation, donc les fuites peuvent venir d'ailleurs. Dans le cas de David Rath, il y a eu des fuites concernant les retranscriptions des coups téléphoniques et le problème est qu'il y était fait mention de personnes qui, à ce moment, n'étaient pas encore poursuivies par la police. Ce qui est en effet une situation problématique.
Martin Březina, commentateur au quotidien Lidové Noviny, estime pour sa part que l'idée est bonne, mais difficilement réalisable en pratique.
Bien entendu, cela a du sens. Ce n'est ni dans l'intérêt de la police ni dans celui du Parlement que les documents qui parviennent à ce dernier se retrouvent le lendemain dans la presse. Cet effort est compréhensible et légitime, mais je suis plutôt sceptique sur son application. Il n'est guère possible de punir un député responsable d'une fuite que par une amende. Et encore faudrait-il prouver qu'il est bel et bien à l'origine de la fuite.
L'avenir dira donc, sans doute par voie de presse, si oui ou non ces mesures visant à limiter les fuites auront leur efficacité. Le coup d'envoi du plus grand événement sportif de la planète doit être donné ce vendredi à Londres pour la troisième fois après 1908 et 1948. Les préparatifs terminés, la capitale britannique attend avec impatience l'arrivée des délégations nationales. La République tchèque participera au 5e JO d'été de son histoire après la scission de la Tchécoslovaquie. Après 134 représentants à Pékin en 2008, elle envoie cette fois un athlète de moins. La délégation de 133 athlètes motivés, y compris le tout jeune nageur Jan Mitzka, 17 ans, invité à la dernière minute, combattra dans 19 sports olympiques sur les 26 représentés à Londres. Alors, qui sont parmi eux les plus grands espoirs tchèques pour les médailles olympiques ? Réponse de Martin Tuchel.
Même si le nombre des médailles tchèques ne cesse de baisser depuis la première performance olympique du pays à Atlanta en 1996, avec 11 victoires, suivies par 8 médailles à Sydney et Athènes pour tomber à 6, mais 3 d'or à Pékin, ce n'est sûrement pas le manque de sportifs d'élite qui l'explique, mais plutôt une concurrence toujours croissante dans le sport professionnel, sans oublier, bien sûr, la chance. À Londres, le président du comité olympique tchèque, Milan Jirásek, espère que les sportifs tchèques vont gagner cette année le même nombre de médailles qu'en 2008.
S'il y avait 6 médailles, je pourrais dire que nous serons très contents. Nous en avons remporté 6 la dernière fois et les performances sportives vont toujours de plus en plus loin.
6 médailles à Londres, un pronostic qui semble réaliste, même si cette estimation n'est qu'une parmi tant d'autres. Tout le monde attend au moins 2 médailles en aviron. Miroslava Knapkova, championne du monde 2011, et Andrei Sinek, champion du monde en 2010 et médaillé d'argent de Pékin, arrivent à Londres avec l'auréole des favoris.
Je pense qu'il est surtout important de prendre conscience que tous les coureurs veulent obtenir au JO un super résultat. Donc il faut y aller avec cette pensée et se préparer à une compétition très difficile et équilibrée. 6 ou 7 candidates peuvent prétendre au podium.
Témoigne Miroslava Knapkova, 5e il y a 4 ans. Andrei Sinek affirme qu'un aspect décisif reste le sommeil pendant la nuit avant la finale. Selon les experts, la médaille d'or reviendra au Tchèque ou bien à son plus grand rival, le Néo-Zélandais Mahe Drysdale. Cependant, tous les skieurs devront faire face au vent désagréable éventuel du canal d'Eaton Dorney, qui n'est pas couvert par des arbres. Le détenteur du record mondial du javelot et triple champion olympique Jan Železný peut espérer trouver des successeurs parmi ses élèves. Vítězslav Veselý possède la meilleure performance de l'année de 88,61 mètres et le titre de champion d'Europe. Barbora Špotáková, elle, devra défendre son titre de Pékin. Elle a décidé de ne pas participer au championnat d'Europe à Helsinki et de consacrer tous ses efforts à la préparation de Londres, où elle espère réussir à en lancer au-delà de 70 mètres. De plus, les deux sont en tête du classement général de la Ligue de Diamants et donc les grands favoris. Au total, 31 athlètes tchèques se sont qualifiés pour Londres, l'athlétisme étant comme d'habitude le sport plus représenté, mais la concurrence sera cette fois beaucoup plus grande qu'au championnat continental il y a un mois. František Foyt, président de la Fédération tchèque de l'athlétisme.
Nous comptons sur la participation d'une trentaine d'athlètes. Si je regarde les derniers JO, il y avait 29 représentants, donc je pense que le nombre final est optimal. Chaque médaille aux Jeux Olympiques sera un grand succès et je crois qu'avec 31 hommes et femmes, 2 ou 3 médailles seraient une vraie réussite.
Depuis les JO de 88, les tireurs tchèques ont toujours remporté au moins une médaille. À Londres, Kateřina Emons, carabine à 10 mètres air comprimé, et David Kostelecký, trap, aimeraient renouer leur médaille d'or de Pékin et ils ont toutes leurs chances. Fort de ses succès lors de la Coupe du Monde de cette année, Lenka Marušková au pistolet, déjà décorée par l'argent d'Athènes, est également devenue candidate au podium. Kateřina Kurková-Emonds, quant à elle, pourrait gagner à Londres sa 4e médaille olympique. Or, l'épouse du tireur d'élite et représentant américain Matt Emonds reste modeste.
Faire du mieux que je peux, c'est mon seul but. Je suis très prudente quand il s'agit de parler de médailles, mais je me réjouis du fait que je suis capable d'en gagner.
Voilà, suite et fin de ce tour d'horizon des espoirs tchèques aux Jeux Olympiques de Londres dans une prochaine édition des Faits et Événements. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Jean-Philippe Namon, agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, a publié en 2011 aux éditions de l'Institut d'études slaves un ouvrage intitulé « La colonie tchécoslovaque, une histoire de l'immigration tchèque et slovaque en France, 1914-1940 ». Au micro de Paul Bauer, il revient sur cette page mal connue de l'histoire des relations franco-tchécoslovaques et nous expose le rôle central joué par les immigrants tchécoslovaques dans la France de l'entre-deux-guerres dans cette rubrique historique.
Chapitre de l'histoire. Jean-Philippe Namon, bonjour.
Bonjour.
Alors, une première question, qu'est-ce que la colonie tchécoslovaque de France et pourquoi porte-t-elle ce nom de colonie ?
Alors, le terme de colonie s'emploie à la fois pour désigner la fédération d'associations qui existe entre 1914 et 1940 en France, mais aussi pour désigner à l'échelle locale, dans une commune, l'association tchécoslovaque du lieu, donc la colonie tchécoslovaque d'Argenteuil, celle de Lens, etc. Alors, elle est créée en 1914, à l'été 1914, avec un objectif double. Le premier objectif, c'est d'organiser l'enrôlement de volontaires tchèques au départ, tchécoslovaques ensuite, dans la Légion étrangère française, pour combattre contre l'Autriche-Hongrie, pour libérer la Bohême, puis la Tchécoslovaquie. Et l'autre objectif, c'est d'éviter aux Tchèques qui vivent à Paris, essentiellement, d'être considérés par les autorités françaises comme des ressortissants d'une nation ennemie. Donc il s'agit en fait de leur fournir des cartes d'identité et d'œuvrer pour la protection de leurs biens matériels, pour leur éviter la mise sous séquestre de ces biens.
Est-ce qu'elle parvient à ses objectifs aux sorties de la guerre ?
Alors, elle y parvient, en fait, dès le départ, c'est-à-dire dès l'automne 1914, parce que le ministère de l'Intérieur autorise cette structure à délivrer donc des cartes d'identité. Elle devient une sorte de consulat sans État. À partir de 1915, quand s'organise l'émigration politique avec des gens comme Masaryk ou Benesch, elle est reprise en main, mais elle conserve cette possibilité de délivrer des cartes d'identité. Donc d'emblée, elle le fait, et d'emblée, elle évite également aux Tchèques de France d'être emprisonnés, comme c'était la possibilité.
Et après la Première Guerre mondiale, quel est son rôle en France ?
Alors après 1918, à partir de 1918, elle a une volonté englobante, c'est-à-dire qu'elle se transforme en un réseau qui n'est plus seulement parisien, car les premières associations étaient seulement parisiennes, mais elle travaille à une échelle nationale, c'est-à-dire l'échelle du territoire français, et elle accompagne le flux migratoire qui se développe à partir de 1920. Donc c'est une fédération.
Est-ce qu'on peut dire que cette fédération constitue une sorte d'acteur dans les relations bilatérales françaises et tchécoslovaques ?
Oui, alors c'est comme ça qu'elle s'est elle-même identifiée dès le départ, c'est-à-dire dès l'été 1914, c'est un acteur politique. Mais par la suite, elle est un relais dans les années 1920, dans les années 1930, un relais pour l'État tchécoslovaque, c'est-à-dire l'ambassade, les consulats, qui se servent de la colonie, des associations qui la forment, pour recueillir des informations sur les besoins des immigrants et pour distribuer une aide sous la forme de subventions, aide aux travailleurs, aux mineurs, aux enfants, etc.
Vous parliez de flux migratoires. Qu'est-ce qui fait que dans les années 30, après la création de la Première République tchécoslovaque, la France apparaît comme une terre d'élection pour des migrants tchèques et slovaques ?
Alors, l'émigration tchécoslovaque, même avant 1914, est un mouvement long. Il se poursuit à partir de 1918. Il est certain que certains émigrants tchécoslovaques rentrent au pays en 1918, mais d'autres restent en émigration ou partent parce qu'il y a des perspectives de travail, qu'il s'agisse d'autres pays que la France, hein, d'autres pays européens. Et surtout, à partir de 1921, les États-Unis ferment leurs frontières en établissant des quotas. Donc il faut trouver une autre solution pour ceux qui veulent partir. Et la France en est une, puisque en 1920, une convention d'émigration est signée entre les deux pays, qui reprend à peu près les mêmes termes que les deux conventions que la France avait déjà signées en 1919 avec l'Italie et la Pologne. Donc il y a des possibilités et c'est pratiquement la France qui devient le premier pays d'émigration pour les Tchécoslovaques à partir de 1923-24.
Toujours une question sur les migrations. Comment expliquez-vous ce départ de Tchécoslovaques ?
Alors, ça s'explique parce qu'il y a des opportunités en France, c'est-à-dire que les entrepreneurs français ont besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Ils font appel à des Italiens, ils font appel à des Polonais, et la Tchécoslovaquie, qui est un pays allié, qui donc a signé cette convention, est une possibilité, est un vivier en quelque sorte pour les entreprises françaises. Donc elles sont très actives pour recruter, et l'État français les aide, puisque à partir de disons entre 1929 et 1934, il y a même une mission d'émigration en Europe centrale qui recrute principalement des ouvriers agricoles depuis Bratislava et qui sont donc des Slovaques. Donc il y a une efficacité en fait de l'État et des entreprises françaises à recruter, et notamment par exemple des spécialistes, des verriers par exemple tchèques.
Est-ce que vous pouvez quantifier ces flux migratoires et comment ces migrations se distribuent sur le territoire français ?
Oui, alors on peut estimer qu'au début des années 20, il y a environ 5000 Tchécoslovaques en France, et on arrive probablement vers 1930-31 à pratiquement 70 000. Alors ce flux confirme le rôle important de Paris et la région parisienne. Il y avait beaucoup de Tchèques parisiens avant 1914. Il y a maintenant en banlieue beaucoup d'ouvriers slovaques notamment, et par exemple il y en a à peu près 1500 vers 1931 à Argenteuil, la région Argenteuil-Gennevilliers. Pour le reste, on voit apparaître l'Est, c'est-à-dire la Moselle, le Nord-Pas-de-Calais, essentiellement dans la région de Lens, et puis quelques communes comme Vianne dans le Lot-et-Garonne, La Grand-Combe dans le Gard, et puis une dispersion pour le reste d'ouvriers agricoles un peu partout dans les régions françaises.
Une fois la Tchécoslovaquie créée en 1918, les objectifs de la colonie atteints durant la Première Guerre mondiale, comment expliquez-vous le maintien de cette fédération dans la France de l'entre-deux-guerres ?
Eh bien, après 1920, elle va effectivement mener une action essentiellement sociale. C'est-à-dire que les besoins des immigrants tchécoslovaques sont grands. Ils ont d'abord besoin de conseils, par exemple, parce qu'ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent en général pas la langue. Ils ont besoin aussi qu'on pourvoie à leurs besoins en cas de maladie, de période de chômage. Éventuellement, il peut s'agir de payer des enterrements, ce genre de choses, hein. Et puis la colonie va aussi beaucoup s'occuper des enfants, par exemple pour leur payer des vacances ou des excursions, mais aussi pour créer des classes, des écoles tchécoslovaques qui vont se former dans les lieux où il y a concentration importante. On va aussi, par exemple, organiser toute une action culturelle pour monter des pièces de théâtre, pour organiser des soirées communes, etc.
Quelle est la situation de ces fédérations au moment de la disparition de la Tchécoslovaquie en 1938 ?
Alors, pour ce qui est de la situation en France, il y a une situation qui est peut-être un peu particulière, dans le sens où l'ambassadeur Ossouski, à partir de 1939, c'est-à-dire de mars 1939, quand la Tchécoslovaquie n'existe plus, reste ambassadeur tchécoslovaque et confirmé par les autorités françaises dans ce rôle. Et la colonie tchécoslovaque est pour lui un pilier, une fédération qui reste très active et qui surtout veut jouer en 1939 le rôle qu'elle a joué en 1914 et pense-t-elle même en 1870, parce que déjà en 1870 il y avait eu une action militaire. Donc 1870, 1914, 1939, trois moments pour œuvrer politiquement, militairement, et cette colonie donc se montre très active, notamment par une propagande très forte.
Quel est son destin durant la Seconde Guerre mondiale?
Alors, avec la débâcle, la colonie tchécoslovaque cesse d'exister immédiatement. C'est-à-dire qu'elle est encore active en avril 40, et puis quand les troupes allemandes arrivent, elle passe dans la clandestinité, elle cesse concrètement d'exister. Certains dirigeants partent par exemple vers la Grande-Bretagne. D'autres sont obligés de passer dans la clandestinité, de se cacher, tout simplement. Et puis les associations locales comme la colonie centrale donc cessent de fonctionner. Certaines archives sont brûlées pour ne pas être saisies par la Gestapo, et donc il y a une mise en sommeil. Par contre, certains dirigeants qui étaient actifs ou certains membres d'associations entrent dans la résistance, qu'il s'agisse de gens du Sokol par exemple, du Sokol de Paris, ou bien qu'il s'agisse des communistes qui eux n'étaient pas entrés dans la colonie mais qui vont jouer un rôle également dans la résistance française.
Est-ce que la fédération, la colonie française, renaît après la fin des hostilités, la Seconde Guerre mondiale?
Alors, elle ne va pas renaître directement sous ce nom. Il y a une volonté d'anciens acteurs de la colonie tchécoslovaque de la faire renaître, en effet. Donc, une fédération va réapparaître, et ceci dès la fin 1944, début 1945. On se réorganise, mais beaucoup d'immigrants sont partis. Donc, ils sont partis d'abord dans les années 30. Beaucoup de Slovaques sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'existait un État slovaque en théorie indépendant, et certains dirigeants de la colonie ont tout simplement disparu. L'ancien président a été déporté et mort en déportation, par exemple. Mais il y a cette volonté de la faire renaître. Simplement, les divisions entre les communistes et les autres, les acteurs historiques de la colonie de l'entre-deux-guerres, vont faire que la colonie ne va pas renaître sous cette forme. Une association des originaires de Tchécoslovaquie communiste à partir de 1948 est reprise en main par l'ambassade au moment du passage au communisme en Tchécoslovaquie, et puis des associations comme le Sokol n'entrent pas dans cette nouvelle fédération et donc restent à l'écart de façon plus isolée.
Jean-Philippe Namon, je vous remercie.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sous forme de podcast également, en streaming ou sous forme d'articles. Je vous rappelle l'adresse de notre site, le www.radio.cz/fr. Sur ce site, vous trouverez également la question du mois pour notre concours. N'hésitez pas, évidemment, à y participer. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy !